Je vais commencer ce sermon avec le caractère saint qui est bien sûr un but que nous avons dans la vie. C'est de temps en temps je vous parle de ce caractère saint, mais j'étais conforté qu'à la fête, je ne suis pas le seul d'en parler. À la fête des tabernacles aussi, on a parlé de ce caractère saint. Et le caractère saint, bien sûr, se construit dans différents domaines. Nous pouvons construire le caractère saint avec un usage de notre temps, un usage approprié, avec bien sûr notre famille, avec notre travail, développer ce caractère saint, même avec la nourriture. Et ça s'applique également dans d'autres domaines, le fait de construire ce caractère saint. Et aujourd'hui, donc, j'ai voulu parler d'un domaine particulier. Et c'est les finances. Construire ce caractère sain en vivant au sein d'un certain nombre de principes. Et donc, aujourd'hui, je vous donne le titre. Le titre de ce sermon, c'est « Des principes pour gérer ses finances ». Des principes, parce que je vais en parler d'un certain nombre, pas énormément, il y en a d'autres, mais aujourd'hui je vais vous parler donc des principes pour gérer ses finances. Et nous allons voir, j'espère, à travers ce sermon, comment le fait d'apprendre à gérer ses finances peut nous aider à construire ce caractère divin. Parce que peut-être parfois dans notre esprit, on va séparer les deux choses. Non, les deux choses vont de pair. Nous allons voir donc comment le fait d'apprendre à gérer ses finances personnelles peut nous aider à construire du caractère. Je ne savais pas, j'avais préparé ce sermon, je savais que j'allais parler de ce sermon depuis maintenant un certain nombre de semaines. Je ne savais pas que Monsieur Franks allait parler également des finances. Donc, de construire le caractère pour que nous puissions entrer dans le royaume, de construire le caractère saint et divin. Et comme j'ai dit, je vais donner un certain nombre de principes, quelques principes. On va, avant de vous donner un certain nombre de principes, j'ai voulu établir des bases. Il est important d'établir des bases parce que l'argent qui nous touche tout, qui nous affecte tous, l'argent n'est pas, entre guillemets, contre le christianisme. L'argent en soi est neutre. L'argent en soi en neutre, c'est notre usage de cet fameux argent qui peut être contre le christianisme, qui peut nous nuire à notre caractère. Ça dépend de notre usage, donc. Ça dépend de comment nous gérons nos finances. Et même si nous avons peu, même si nous avons peu ou très peu, il y a un principe qui s'applique, c'est que des petits ruisseaux font de grandes rivières. Des petits ruisseaux font de grandes rivières. Mais encore faut-il gérer ces petits ruisseaux, ça c'est important. Et donc, ça s'applique, comme j'ai dit, dans tous les domaines de notre vie, parce que nous avons plusieurs aspects, plusieurs domaines où nous utilisons l'argent, et peut-être même où nous gagnons de l'argent. Je veux commencer avec Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 est intéressant de ce point de vue-là. Et pas uniquement ce point de vue-là, mais parce que Deutéronome chapitre 28, vous vous rappelez, c'est la même chose, c'est en parallèle avec Lévitique 26. Et c'est un chapitre qui concerne les bénédictions et les malédictions. Et c'est un chapitre qui concernait Israël, la nation d'Israël à l'époque, les bénédictions, les malédictions. Le contexte est donc important. Ce qui est aussi important, c'est qu'est-ce que nous pouvons retirer de cet exemple, de ce que Dieu a dit à Israël à l'époque. On va commencer avec, si vous voulez bien, avec le verset 1. Deutéronome chapitre 28 et le verset 1. Une entrée en matière qui est très importante. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et Donc ça, c'est des, on sait bien que c'était pour Israël physique à l'époque, il y a des bénédictions physiques, mais le commencement du chapitre, c'est « si tu obéis ». On arrive au verset 11. Verset 11, toujours une suite de bénédictions qui se termine avec le verset 14. Verset 11, donc, « L'Éternel te comblera de bien si tu obéis. » L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner. Verset 12. L'Éternel promesse donc de la part de Dieu, si les enfants d'Israël allaient obéir. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, une grande bénédiction. Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Pour pouvoir prêter, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir la richesse. Il faut avoir les moyens, que ce soit les finances ou autre. Donc, Dieu dit à ce moment-là, à Israël à l'époque, qu'ils allaient prêter à beaucoup de nations s'ils obéissaient à Dieu. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le contexte réitéré, si je puis dire, verset 13, souligné, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc déjà ici, l'accent est mis sur l'obéissance. L'accent mis sur l'obéissance. L'accent, le but n'est pas sur le fait de s'enrichir. Ça, c'est important. Le but n'est pas le fait de s'enrichir pour un chrétien. Et nos yeux ne devraient pas être sur le fait de s'enrichir. Proverbes chapitre 23 et le verset 4. Je ne m'y rapporte pas. Proverbes chapitre 23 et le verset 4. Et j'aime bien comme c'est traduit ici dans la Bible. Proverbes 23 verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Et ce mot tourmenté est parfois traduit par épuiser, se fatiguer. Donc c'est pas là notre but principal dans la vie. C'est parfois la sagesse du monde, parce que parfois la sagesse du monde veut qu'on aimerait s'enrichir à tout prix, mais c'est pas la sagesse de Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Verset 5, ça continue. Je m'y rapporte pas non plus. Verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et c'est vrai que la richesse peut disparaître du jour au lendemain. Il y a les aléas de la vie. Il y a les coups durs dans la vie. Il y a parfois la maladie qui peut faire en sorte que notre situation change d'une façon radicale. Et l'argent peut rapidement disparaître. Ça arrive. Temps et circonstances, pour employer une expression biblique. J'ai connu une femme qui avait un problème pour gérer son argent. Elle avait vraiment un grand problème à gérer son argent, et le résultat, c'est qu'elle avait des manques. Je ne sais même pas si elle n'a pas emprunté, mais toujours est-il que cette femme, à un moment donné, a ou un héritage. Sa mère est décédée et elle a acquis un héritage. Et vous l'avez bien deviné, pendant un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas combien de temps, c'est allé parce qu'elle avait l'héritage, mais après, elle ne savait toujours pas gérer l'argent et elle est retombée dans une situation où elle avait des problèmes. Bon, ça, j'ai voulu établir ceci comme une base. C'est pas le fait de s'enrichir, donc... Ecclésiaste, et on arrive à notre premier principe, principe numéro 1, si vous voulez, dans le contexte de ce sermon, que nous allons voir dans Ecclésiaste chapitre 5 et le verset 9. Évidemment, cette femme était malheureuse parce que elle n'avait pas résolu son problème. Ecclésiaste chapitre 5 et le verset 9. Ça rejoint un peu ce que nous avons lu tout à l'heure. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Je vous lis deux autres traductions de ce verset. Choraki, qui comme d'habitude est un peu lourd. L'amoureux de l'argent ne se rassasie pas d'argent, ni l'amoureux de l'opulence du revenu. Évidemment, si on veut toujours plus, si on recherche toujours plus, si on veut toujours plus, on va pas être rassasié. Le Darby dit ceci, « Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. » Autrement dit, si on veut résumer le tout, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Il faut pas avoir l'amour de l'argent. Bien sûr qu'il faut gagner sa vie, etc. Ça, c'est un autre sujet. Et parfois, peut-être, on peut penser que l'argent est une valeur, ou les gens du monde peuvent penser que l'argent est une valeur. Ce n'est pas une valeur. C'est un bien. Ça peut être appelé peut-être une fausse valeur, mais c'est pas une valeur aux yeux de Dieu, parce que les valeurs aux yeux de Dieu, c'est quoi? Les valeurs aux yeux de Dieu, c'est la justice. C'est le fait d'être juste aux yeux de Dieu. C'est le fait justement de construire ce caractère saint. Les valeurs aux yeux de Dieu, c'est quoi d'autre? C'est la diligence. C'est le fait de bien travailler. Le fait de bien travailler peut, évidemment, je suis conscient qu'en fonction d'où nous vivons dans le monde, les circonstances sont bien, bien différentes. Mais le fait de bien travailler peut avoir pour effet de gagner de l'argent. Ça peut avoir pour l'effet de gagner de l'argent, mais ce n'est l'argent lui-même n'est pas une valeur. Proverbe chapitre 30, le verset 7. Alors, on va s'y rapporter. Proverbe chapitre 30 et le verset 7. On voit ici où il faudrait avoir le cœur. Proverbe chapitre 30, verset 7. Je te demande deux choses, c'est la sagesse de Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi, donc les deux extrêmes ici, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. D'éviter ces deux extrêmes. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi? De peur que dans l'abondance je ne te renie. Elles disent qui est l'Éternel. Donc on veut garder un contact absolument avec Dieu parce que c'est ça qui est primordial. Elles disent qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté je ne dérobe, elle ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous voyez la relation avec Dieu qui est maintenue, qui devrait être maintenue. On voudrait être bien avec Dieu. Si Dieu nous bénit, il y a des riches dans l'Église. Et si Dieu bénit, c'est Dieu qui bénit. Mais il ne faut pas qu'à ce moment-là, que cela nous tourne la tête. Il ne faut pas que ça nous tourne la tête. De gagner honnêtement en se donnant de la peine, oui, mais sans oublier Dieu. Dieu doit rester le centre de notre vie. C'est primordial, pas la richesse. Dieu n'est pas contre les richesses, comme je dis, si ça vient de Dieu. Mais avec la richesse, il faut pas oublier qu'avec les richesses, quelqu'un qui est riche a une responsabilité. Une responsabilité biblique qui vient automatiquement avec la richesse. Et lorsque nous avons peut-être des richesses, il faut continuer à semer spirituellement, semer avec le physique. Parce que nous vivons dans un monde physique et nous avons des biens physiques. 1 Timothée chapitre 6, c'est le verset 17. Donc de rester, qu'on soit pauvre, que ce soit riche, de rester avec le fait de, bien sûr, avoir ce contact avec Dieu et de semer spirituellement avec ce que nous avons à notre disposition. Parce que si nous semons spirituellement, nous allons récolter spirituellement. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. Il y a des instructions très précises données par Paul ici aux gens qui, peut-être, sont riches. Recommande aux riches du présent siècle de ne point être orgueilleux, parce qu'évidemment, on peut être orgueilleux avec les richesses, tout comme on peut être orgueilleux avec la connaissance, on peut être orgueilleux avec ses capacités, on peut être orgueilleux de notre situation dans la vie. Et donc ici, en l'occurrence, ça peut être orgueilleux de fait d'être parce qu'on est riche. Verset 17, donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses. Il ne faut pas oublier que Dieu regarde ce que nous faisons. Jacques 5, du reste, il m'y rapporte pas, mais Jacques 5 parle de la corruption du caractère, puisqu'on parlait au début du serment du caractère. Jacques 5 parle de la corruption du caractère qui peut venir avec la richesse, qui vient parfois avec la richesse. Donc, de mettre leur espérance, de pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, toujours Dieu, le centre de notre vie, quelle que soit notre situation. Mais de le mettre en Dieu, c'est Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18, toujours ce conseil, cette recommandation vis-à-vis des gens qui ont de l'argent ou qui sont riches, recommande-leur de faire du bien. Ça reste immuable. De faire du bien, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, quelle que soit notre situation, de faire en fonction, bien sûr, de nos moyens. Et ça, je souligne, parce que il y a aussi bien des gens dans l'Église qui ne sont pas riches. La plupart ne sont pas riches. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches, oui, en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser, parce qu'on s'aime spirituellement, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. C'est ça qui compte. C'est notre avenir. Notre avenir qui devait être basé sur quelque chose de solide, donc spirituel, afin de saisir, quoi, la vie éternelle. On sème spirituellement et on récolte spirituellement. On sème physiquement, on va peut-être récolter physiquement. Mais le fait de faire du bien, c'est la voie royale, c'est la voie de Dieu, riche ou pauvre. Le synodal dit ceci à propos de verset 18, à la fin du verset 18, d'être prompt à donner et de faire part de ce qui possède. Proverbe chapitre 18, verset 11. On a lu tout à l'heure de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Il y a un proverbe qui va très bien de pair avec cette partie de l'écriture, cette partie du verset, et qui se trouve dans Proverbe chapitre 18, verset 11. C'est humain. Proverbe chapitre 18, verset 11. La fortune est pour le riche, une ville forte. C'est une protection. Une ville forte. Il est à l'abri avec ses richesses. Mais dans son imagination, c'est pas la réalité, c'est pas forcément la réalité. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Vraiment à l'abri de tout. Non, on n'est pas à l'abri de tout quand on est riche. Comme j'ai dit, il peut y avoir un revers de fortune, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir d'autres choses qui arrivent. On n'est pas à l'abri, contrairement donc à ce que le riche pensait peut-être ici dans Proverbes chapitre 18. Parfois les gens sont obsédés par la sécurité financière. Et ça, c'est un mythe. Avec le fait d'être vraiment en sécurité, point de vue financier, ça c'est un mythe. Il n'y a aucune sécurité absolue. N'importe quoi peut arriver. Il faut la sagesse avec les affaires, enfin les affaires avec les finances. Il faut la prudence. Luc chapitre 12, verset 13. Luc chapitre 12 et le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Normalement, à l'époque, avec les Juifs, je crois que c'était l'aîné qui avait deux parts, normalement. Donc peut-être qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Verset 14, « Jésus lui répondit au homme qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Voilà ça. Ça ajoute par rapport aux écritures que nous avons déjà lues. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Point de départ, c'est déjà un homme riche. Et quand on est riche, on peut se sentir confortable. Et on peut avoir une certaine autosatisfaction. Comme quoi on est arrivé, entre guillemets. Verset 17. Et raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Vous remarquerez au passage, au fur et à mesure qu'on lit, le nombre de fois que le mot « je » revient, ou « mon » ou « ma », tout est centré sur lui-même. « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en battrai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Ça, ce n'est pas le fait de construire le caractère saint. Et il était déjà riche, il voulait devenir encore plus riche, ou voir mettre à l'abri tout au moins ce qu'il avait. Et les richesses, il est certain, les richesses peuvent être une épreuve pour un homme. Peuvent être une épreuve parce que il va pas développer à ce moment-là ce caractère saint, ce caractère que Dieu veut que nous développions. Le verset 17 dans le Darby dit ceci, « Car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. » L'homme riche ici, avec ses terres, était au centre de sa vie. Il était au centre de son propre existence. C'était pas Dieu. Et l'accent ici, dans ces quelques versets, est sur le soi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. On est riche et on meurt, et pour qui vont ces richesses, justement? Si on n'a pas bien géré, si on n'a pas pensé à après. Même ton âme te sera redemandée, et à ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et si nous avons des problèmes avec les richesses, que la richesse prend ou les finances prennent trop grande place dans notre vie, nous pouvons prier pour que nous n'ayons pas un autre Dieu devant Dieu. Donc ça c'est le premier point, c'est de ne pas avoir l'amour de l'argent. Ne pas avoir l'amour de l'argent. 1 Corinthiens chapitre 6 est intéressant parce que il parle des injustes qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et nous pouvons constater ici qu'il y a plusieurs catégories. Il y a trois catégories qui ont à voir avec des biens et peut-être des finances, en certains cas. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 9. Et pour les très catégoriques ici, il parle aux gens de Corinthe qui avaient eu un certain nombre de problèmes avant leur conversion, et même après. Mais verset 9, il dit ceci, car il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est catégorique, c'est clair. Et ne vous y trompez pas. Et ensuite, il donne le catégorique de ceux qui sont injustes et qui ne vont pas hériter le royaume. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, il parle des mœurs ici, le fait de se comporter dans la vie, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Un voleur, c'est quelqu'un qui prend ce qui ne lui appartient pas, que ce soit l'argent ou que ce soit autre chose. Donc première catégorie, ni les voleurs, ni les cupides. Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Donc cupides, deuxième catégorie, ravisseurs, troisième catégorie, qui ont à voir avec des biens et peut-être dans certains cas avec l'argent. Le mot cupide ici, c'est peut être défini d'après le grec comme quelqu'un qui est désireux d'avoir plus. Qui est désireux d'avoir plus. Donc, ça a à voir avec, bien sûr, l'attitude, et particulièrement en ce qui appartient aux autres. Quelqu'un qui est avide de gain. Et ce mot, comme c'est si souvent le cas en grec, est composé à ses racines dans deux autres mots. Une de ses racines parle de davantage plus que. Donc, nous vivons dans un monde où les gens veulent toujours plus, souvent. Donc, ça, c'est une de ses racines, plus que davantage. L'autre racine est traduite par le fait d'être ou avoir besoin de. Avoir ou avoir besoin de. Et ici, ce passage en anglais est traduit par covetous, le fait d'être, de convoiter. Le fait d'être convoité, de convoiter. Et là, on arrive donc à notre deuxième principe. Comment gérer nos finances? C'est de ne pas convoiter. Le ravisseur, c'est la troisième chose. Définie de ravisseur, c'est prendre par violence, par ruse ou par surprise. Prendre par violence, par ruse ou par surprise. La voie de prendre. Et puis, c'est marqué toujours, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 10, je relis, donc, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, justement pour devenir différent, pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est par l'Esprit de notre Dieu. Il est bon de progresser dans la vie, mais de progresser dans la vie honnêtement. En se développant, en s'améliorant, et si bien sûr nous gagnons davantage parce que nous faisons valoir, ou nous travaillons sur nos talents, nos capacités, et que Dieu nous bénisse, ça c'est autre chose. Nous avons l'exemple d'Acan. Acan qui est entré dans la terre promise, mais qui n'est pas resté longtemps dans la terre promise, qui n'a pas pu poursuivre son chemin, parce qu'il avait un problème. Josué, chapitre 7, verset 1. Josué, chapitre 7, verset 1. Et ça lui a coûté cher. Très cher. Josué, chapitre 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Donc Dieu avait interdit certaines choses. Achan a passé outre. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il est allé au bout de sa convoitise. Il y a un aboutissement avec les conséquences. Dans le verset 19, à partir du verset 19, c'est Josué qui lui parle. Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi, donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. » Il y avait un problème. Dieu n'était plus avec Israël parce que Achan a fait ce qu'il fallait pas faire. Verset 20, « Achan, il est au moins assez honnête pour faire son mea culpa. » Verset 20, « Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et voici, ensuite, il décrit le processus de comment il est arrivé là. « Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau. » La convoitise, ça commence avec le fait souvent de voir, pas forcément, mais souvent avec le fait de voir quelque chose. « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéard, 200 sicles d'argent et un lingot d'or. » Il y a beaucoup de personnes qui seraient contentes d'avoir un lingot d'or. Un lingot d'or du poids de 50 sicles. Il a vu. Ensuite, deuxième étape, je les ai convoités. Et puis, troisième étape, il n'a pas résisté à sa convoitise et je les ai pris. Et c'était sa chute. Ce processus-là, on peut le lire dans Jacques chapitre 1, je ne m'y rapporte pas, mais vous pouvez lire ça à la maison à tête reposée. Donc, une clé, la convoitise, pour gérer nos finances, il ne faut pas que nous gérons nos finances avec convoitise, il ne faut pas qu'il y ait la convoitise qui entre en ligne de compte. Il y a une clé qui peut interrompre ce processus avant que ça aboutisse, avant qu'on passe à l'acte, la convoitise, c'est le budget. Et moi, j'étais ravi quand j'ai écouté la propos de M. Fonks, parce qu'il a parlé de beaucoup de budget. Et je sais, je suis parfaitement conscient que tout le monde n'aime pas parler du budget. Et M. Franks a dit qu'il fallait pas dépasser ce que nous avons projeté. M. Franks, c'est quelqu'un qui est visiblement très sage avec les finances, avec M. Taylor. Et il fallait pas, il a dit quelque chose comme ceci, qu'il fallait pas dépasser ce que nous avons projeté, ce dont nous disposons. C'est la sagesse même, et c'est le même principe avec nos finances. Le budget consiste à ne pas dépenser plus que ce que nous gagnons. Le fait de faire un budget n'est pas une punition. Hein. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai pas toujours aimé faire un budget. Hein. Quand j'étais plus jeune dans la vie active, non, je n'aimais pas faire un budget. Et il y a une certaine discipline, mais un budget n'est pas forcément fastidieux. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. Bon, par la suite, ça pose aucun problème maintenant pour faire un budget. Ça ne me pose pas non plus un problème pour vivre au sein de mon budget. Mais c'est une question d'équilibre. Équilibre, être équilibré entre ce qui entre et ce qui sort. Mais on a besoin de savoir ce qui entre, combien entre et comment nous dépensons notre argent. Si on réfléchit bien, quand on donne à Dieu, quand on donne à Dieu, premièrement, deuxièmement, quand on met de côté pour les fêtes de l'Éternel, on a déjà esquissé le commencement d'un budget. On a déjà esquissé le commencement d'un budget. Proverbes chapitre 27, verset 23. J'ose penser que cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ose penser qu'elle n'avait pas un budget. Proverbes chapitre 27, verset 23. Proverbes 27, verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni un couronne éternellement. La fameuse JFB, le commentaire, je crois que c'est James Fitzgerald Brown, le commentaire dit ceci à propos de ce verset, et je traduis en français. Les troupeaux constituaient le produit principal de la richesse. Les troupeaux à l'époque, donc, constituaient le produit principal de la richesse, leur revenu, si vous voulez, leur bien. C'est seulement en prenant soin et en étant diligent que les possessions les plus solides peuvent être perpétuées ou qu'elles peuvent être prolongées. Il faut connaître, il faut savoir ce que nous avons. Pourquoi? Entre autres, pour pouvoir gérer, pour pouvoir en prendre soin. Et là, déjà là, nous avons également le principe d'un budget. De savoir ce que nous avons pour pouvoir pour en prendre soin. Et j'ai dit tout à l'heure, donc, si on donne à Dieu et on met de côté pour les fêtes, que c'est déjà l'esquisse d'un budget, il suffit de continuer le processus. Il suffit de continuer le processus. Ce sont des pourcentages dans notre vie, il faut continuer. Nous avons tel et tel pourcentage pour telle et telle chose. Souvent, de nos jours, on pense augmenter son revenu. Il est aussi important de prendre soin de ce que nous avons, de gérer ce que nous avons et de pas constamment avoir les yeux par le fait de concerner, par le fait d'augmenter son revenu, de gérer sagement ce que nous avons. Ça peut faire des merveilles, de gérer sagement ce que nous avons. Il faudrait connaître l'état de nos finances pour en prendre soin. Savoir ce que nous avons, connaître notre patrimoine, que notre patrimoine soit volumineux, si je puis dire, que nous avons beaucoup, que nous avons peu. Verset 24, je vous ai déjà lu. Mais le monde, le fait d'avoir un budget peut nous empêcher de continuer avec la convoitise, là où je vais en venir. Que la convoitise ne prend pas racine dans notre vie, parce que nous avons projeté un certain montant pour telle et telle chose. Bon, si nous n'avons pas l'argent, on attend. Si on n'a pas l'argent, on attend. Le budget peut nous maîtriser, nous enseigner beaucoup. Ça peut nous enseigner également la maîtrise de soi. J'ai parlé de la convoitise, mais le budget aussi peut nous enseigner la maîtrise de soi. Il y a, avec un budget, si nous faisons un budget, il y a ce que j'appelle les impondérables. Les impondérables, ce sont des choses, des dépenses fixes. Comme par exemple votre abonnement d'eau, ou votre abonnement d'électricité. La quantité d'électricité que vous allez utiliser n'est pas un impondérable. C'est quelque chose que vous gérez. Mais normalement, dans nos sociétés, on a l'électricité, et donc l'abonnement en lui-même est impondérable. Et le principe consiste à bien gérer ce que nous avons. Je suis très conscient que dans nos sociétés occidentales, nous avons beaucoup et que ce n'est pas la même situation ailleurs. Il y a d'autres dépenses qui sont variables. La nourriture, jusqu'à un certain point, c'est variable. On a besoin de se nourrir, mais notre budget de nourriture peut varier. Comme j'ai dit, la quantité d'électricité que nous utilisons peut varier. Mais c'est nous qui prenons la situation en main. C'est nous, à ce moment-là, qui maîtrisons notre situation personnelle. Galates chapitre 5, verset 22. Donc, on arrive à ce troisième point qui est lié à ce deuxième point, le fait de ne pas convoiter, et qu'un budget va nous aider à gérer, c'est la maîtrise de soi. Quand on fait un budget, on maîtrise ses finances. Quand on fait un budget et quand on se tient, c'est ça peut-être la partie la plus difficile. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, donc il parle ici, bien sûr, le genre de caractère que nous voulons construire, que Dieu veut que nous construisions. Galates chapitre 5, et le verset 2. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le synodal et Shuraki parlent à la place de tempérance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Surtout, peut-être, si nous construisons un budget et nous entrons dans le détail. Il faut tenir à son budget, un budget équilibré avec sagesse, bien sûr, en fonction de ses revenus, qui sont, bien entendu, parmi les membres de l'Église, très variables. Mais le fait de ne pas convoiter, le fait de maîtriser sa situation va de pair. Et il est utile, très utile, d'aller vraiment dans les détails. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, dans ma vie, j'utilisais mon vélo pour aller au travail, tous les jours pratiquement. Et je me suis amusé à calculer combien de kilomètres j'ai fait en tout, en vélo. Et j'ai fait, d'après mes estimations, entre 30 et 35 000 kilomètres en vélo, uniquement pour aller au travail. Quand vous faites plus de 30 000 kilomètres en vélo, entre parenthèses, le tour du monde, la circonférence du monde, c'est 40 000. Donc c'est pas mal. Mais quand vous faites du vélo, vous faites 13 kilomètres tous les jours, il y a l'usure. Alors, on ne peut pas dire où c'est le vélo, donc ça ne coûte rien. Non, si on veut bien faire un budget et dans le détail, ça a un certain coût. Je ne sais pas si c'est tous les 7000 kilomètres, en tout cas un pneu ne dure pas éternellement. Il faut changer les pneus, beaucoup plus souvent qu'une voiture. Il y a les freins qui s'usent. Il y a les crevaisons, il faut réparer. Il y a aussi autre chose qui m'arrive plus d'une fois, c'était les rayons. Les rayons, et moi je ne suis pas très bricoleur, et je faisais réparer mes rayons. C'est un certain coût, parce que les rayons, et si vous ne réparez pas les rayons, vous aurez des problèmes avec votre roue, votre vélo. Donc il y a quand même un budget. Et c'est bon d'avoir un budget. Et parce que j'avais un budget avec mon vélo, qui n'était pas un grand budget, mais c'est pas une voiture, mais c'était un budget quand même. Et parce que j'avais fait un vélo, je m'en suis sorti. J'arrivais à un budget pour mon vélo. Et parce que j'avais fait un budget pour le vélo, j'étais pas déficitaire. J'étais pas déficitaire. Ça, c'est donc un deuxième aspect. Qui va de pair, un troisième aspect, qui va de pair avec la maîtrise de soi, avec le fait de ne pas convoiter lorsque nous gérons nos finances. Et puis il y a un autre aspect encore, comme nous pouvons ajouter. Nous vivons, on le sait bien, nous vivons dans une époque où les gens souvent veulent quelque chose tout de suite. Tout de suite, une gratification immédiate, où on parle également d'achats spontanés ou impulsifs. J'ai entendu à la télévision il n'y a pas longtemps, il y avait le projet de construire un supermarché. Et pour finir, ils sont revenus en arrière, ils n'allaient pas construire ce supermarché. Et il y avait plusieurs raisons qui ont été évoquées et que les gens ont évoquées. Et une des raisons, c'est que justement, avec ce supermarché, qui allait être, je pense, un grand supermarché, les gens ne voulaient pas, certaines personnes ne voulaient pas, parce qu'ils allaient faire des achats spontanés, des achats impulsifs. parce qu'il se trouvait là, parce que la tentation a été trop forte. Et donc, ça c'est un autre aspect quand on gère nos finances, que ce que nous pouvons construire comme caractère, c'est la patience. Et c'est ce que nous pouvons faire lorsque nous faisons un budget. La patience d'attendre. Vous me direz, oui, mais je peux acheter à crédit. Oui, vous pouvez acheter à crédit, mais vous allez payer plus cher. Et est-ce qu'on aura construit ce caractère? Est-ce qu'on aurait construit, justement, cette patience? Nous sommes influencés par la société qui nous entoure plus qu'on imagine. Galates chapitre 5, je reviens à Galates chapitre 5. On a vu la maîtrise de soi dans Galates chapitre 5. Et il y a autre chose que nous avons déjà lu tout à l'heure. Je relis Galates chapitre 5 à la verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. La patience. Construire la patience. Ça va à l'encontre de notre société. Jacques chapitre 5 vous parle plus longuement de la patience. Et pour réussir le côté aspect financier de notre vie, il faut maîtriser nos désirs, maîtriser nos convoitises et pour pouvoir s'en sortir, pour réussir financièrement notre vie d'après les critères de Dieu. Je suis arrivé à 3 ou 4, ça dépend comment vous comptez, 3 ou 4 points. J'arrive maintenant au dernier principe pour gérer nos finances et qui se trouve dans Proverbes chapitre 13, le verset 22. Proverbes chapitre 13 et le verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le mot, quand il est traduit ici en français par l'homme de bien, ce même mot est employé à propos justement de la femme vertueuse. C'est le même mot utilisé pour décrire Dieu lui-même. Donc, la femme vertueuse, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, savoir avec quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui est juste, comme je dis, c'est utilisé aussi pour décrire Dieu. Et quand, bien sûr, il faut prendre le principe qui est évoqué ici, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, on peut aussi donner à ses petits-enfants à travers ses enfants. Donc, il faut prendre le principe. C'est une question d'attitude, c'est une question de penser à sa famille, la question de penser justement, prendre soin des siens, comme c'est marqué dans 1 Timothée chapitre 5. Et si nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas 10 enfants, c'est le fait, pour prendre le principe plus large, c'est le fait de donner. On gère nos finances d'après Dieu en donnant de ce que nous avons, avec, bien sûr, sagesse, et en fonction de ce que nous avons, mais pas en pensant à soi-même, en pensant uniquement à soi-même, pour prendre le contraste par rapport à l'homme riche qui pensait qu'à lui-même, qui pensait à ramasser ses biens. Aux États-Unis, il y a des gens qui donnent de l'argent qui sont pour d'autres personnes qui sont dans le besoin, dans l'église. Et M. Micker, je pense qu'il donne ça dans une enveloppe, il donne parfois au cours de ses visites. Il y a des gens dans l'église qui souffrent, il y a des membres qui souffrent et qui sont nécessiteux. Mais le tout, c'est de chercher, pour prendre ce principe plus large, le tout, c'est de chercher à faire du bien, chercher à donner. de gérer ses finances en cherchant à donner. Proverbe chapitre 21, comme j'ai dit, c'est avec sagesse, on garde pour soi aussi, bien sûr. Proverbe chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, évidemment, il a des désirs, mais il n'est pas disposé à faire le nécessaire. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Il donne largement en fonction de ce qu'il a. Il donne sans parcimonie. Il y a mille et une façons de donner. Et nous pouvons utiliser nos finances pour donner. C'est un moyen, c'est une façon de donner. Comme avec tout, comme j'ai dit, c'est un équilibre. Il faut l'équilibre, il faut la sagesse. Mais là, on voit bien ici que le juste donne sans parcimonie. On prend le modèle de Dieu. Dieu donne sans cesse. Dieu donne à sa famille. Et nous voyons avec Paul, dans Actes chapitre 20, verset 35. Enfin, Actes chapitre 20, pardon. Parce que l'Actes chapitre 20, verset 35, c'est l'écriture que nous connaissons par cœur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce que j'ai voulu faire là, dans Actes chapitre 20, c'est de prendre recul pour voir le contexte. Actes chapitre 20 et le verset 25 pour commencer. Actes chapitre 20 et le verset 25. C'était une situation difficile, une situation triste parce que Paul allait partir et ils n'allaient plus voir leur apôtre bien-aimé. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous qui êtes, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul donnait, il donnait en prêchant. C'était pas un au revoir, il n'allait plus les voir. Verset 26. Pas uniquement est-ce qu'il prêchait, qu'il passait son temps à prêcher, qu'il passait son temps à donner. Verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il était intègre. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour l'exhorter avec larmes chacun de vous. Il avait le ministère en tant qu'apôtre et donc c'est ce qu'il faisait. Comme j'ai dit, il donnait. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or. C'était pas ça son point de mire. C'était, il n'y avait pas ses convoitises. C'était pas son désir de ramasser de l'argent et de l'or. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pour vous, pas uniquement est-ce qu'il donnait, mais en plus il pourvoyait pour à ses propres besoins. Vous savez vous-même que ses mains ont pour vous à mes besoins. Il avait de toute façon, Paul avait un métier. Hein. Vous savez vous-même que ses mains ont pour vous à mes besoins, et à, pas uniquement à ses besoins, mais à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il donnait largement, il donnait beaucoup. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Parce qu'il pensait aux faibles, il pensait pas à lui. Qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ceux qui donnent, quand ils donnent d'une façon désintéressée, en plus de bonheur. Comme je dis, faut pas que ce soit calculé, il faut donner d'une façon désintéressée sans savoir ce que la main droite, sans que la main gauche sache ce que donne la main droite, si je puis dire. Mais donc, Paul a construit, bien sûr, des caractères. C'était le cinquième point, le fait de donner. Quand on gère nos finances, de penser donner avec nos finances. Il est donc très important que nous réfléchissions à comment gérer nos finances. à ce que nous développons comme caractère, parce que nous allons de toute façon inévitablement développer le caractère de bon ou de mauvais. Et il nous importe de construire le caractère de Dieu. Donc, à ce que nous développions comme caractère, parce que Dieu nous regarde. Dieu nous regarde, il voit ce que nous construisons, si nous construisons, et c'est très important à ses yeux que nous apprenions à bien gérer. C'est très important aux yeux de Dieu que nous apprenions à bien gérer les richesses que nous avons, que nous ayons beaucoup ou pas, y compris nos finances, qu'il nous a confiées.